Vivre et inventer. Quel que soit le degré que quelqu'un puisse atteindre dans la connaissance de soi, rien ne peut être plus incomplet que l'image qu'il se fait des instincts qui constituent son individu. À peine s'il sait nommer par leur nom les instincts les plus grossiers, leur nombre et leur force, leur flux et leur reflux, leurs jeux réciproques, et avant tout les lois de leur nutrition lui demeurent complètement inconnues. Cette nutrition devient donc une œuvre du hasard. Les événements quotidiens de notre vie jettent leur proie tantôt à tel instinct, tantôt à tel autre. Il les saisit habilement, mais le va-et-vient de ces événements se trouve en dehors de toute corrélation raisonnable avec les besoins nutritifs de l'ensemble des instincts. En sorte qu'il arrivera toujours deux choses. Les uns dépériront et mourront d'inanition, les autres seront gavés de nourriture. Chaque moment de notre vie fait croître quelques bras du polype de notre être et en fait se dessécher quelques autres, selon la nourriture que le moment porte ou ne porte pas en lui. À ce point de vue, toutes nos expériences sont des aliments, mais répandues d'une main aveugle, ignorant celui qui a faim et celui qui est déjà rassasié. Par suite de cette nutrition de chaque partie, laissée au hasard, l'état du polype, dans son développement complet, sera quelque chose d'aussi fortuit que l'a été son développement. Pour parler plus exactement, en admettant qu'un instinct se trouve au point où il demande à être satisfait, ou à exercer sa force, ou à la satisfaire, ou à remplir un vide, tout cela est dit au figuré. Il examinera chaque événement du jour pour savoir comment il peut l'utiliser en vue de remplir son but. Quelle que soit la condition où se trouve l'homme, qu'il marche ou qu'il se repose, qu'il lise ou qu'il parle, qu'il se fâche ou qu'il lutte ou qu'il jubile, l'instinct altéré tâte en quelque sorte chacune de ses conditions, et dans la plupart des cas, il ne trouve rien à son goût. Il faut alors qu'il attende et qu'il continue à avoir soif. Encore un moment et il s'affaiblira. Et au bout de quelques jours ou de quelques mois, s'il n'est pas satisfait, il desséchera comme une plante sans pluie. Peut-être cette cruauté du hasard apparaîtrait-elle sous des couleurs plus vives encore si tous les instincts demandaient à être satisfaits aussi foncièrement que la faim, qui ne se contente pas d'aliments vus en rêve. Mais la plupart des instincts, surtout ceux que l'on appelle moraux, en sont précisément là. S'il est permis de supposer que nos rêves servent à compenser, en une certaine mesure, l'absence accidentelle de nourriture pendant le jour. Pourquoi le rêve d'hier était-il plein de tendresse et de larmes, celui d'avant-hier plaisant et présomptueux, tel autre, plus ancien encore, aventureux et plein de recherches inquiètes? D'où vient que dans ce rêve je jouis des indescriptibles beautés de la musique? D'où vient que dans cet autre je plane et je m'élève avec la volupté de l'aigle jusqu'aux cimes les plus lointaines? Ces imaginations, où se déchargent et se donnent jeu nos instincts de tendresse, ou de raillerie ou d'excentricité, nos désirs de musique et de sommet, et chacun aura sous la main des exemples plus frappants encore, sont les interprétations de nos excitations nerveuses pendant le sommeil, des interprétations très libres, très arbitraires de la circulation du sang, du travail des intestins, de la pression des bras et de la couverture, du son des cloches d'une église, du bruit d'une girouette, des pas des noctambules et d'autres choses du même genre. Si ce texte, qui en général demeure le même pour une nuit comme pour l'autre, reçoit des commentaires variés au point que la raison créatrice imagine hier ou aujourd'hui des causes si différentes pour les mêmes excitations nerveuses, cela tient au fait que le souffleur de cette raison fut différent aujourd'hui de ce qu'il a été hier. Un autre instinct voulut se satisfaire, se manifester, s'exercer, se soulager, se décharger. C'est cet instinct-là qui atteignit son flot, et hier c'en était un autre. La vie de veille ne possède pas la même liberté d'interprétation que la vie de rêve. Elle est moins poétique, moins effrénée. Mais me faut-il ajouter que nos instincts en état de veille ne font également pas autre chose que d'interpréter les excitations nerveuses et d'en fixer les causes sur leurs besoins? Qu'entre l'état de veille et le rêve, il n'y a pas de différence essentielle. Que même dans la comparaison de degrés de culture très différents, la liberté d'interprétation éveillée sur l'un de ces degrés ne le cède en rien à la liberté d'interprétation en rêve de l'autre. Que nos évaluations et nos jugements moraux ne sont que des images et des fantaisies, cachant un processus physiologique inconnu à nous, une espèce de langage convenu pour désigner certaines irritations nerveuses. que tout ce que nous appelons conscience est en somme que le commentaire plus ou moins fantaisiste d'un texte inconnu, peut-être inconnaissable mais pressenti. Que l'on se remette en mémoire un petit fait quelconque. Admettons que nous nous apercevions un jour, tandis que nous traversons la place publique, que quelqu'un se moque de nous. Selon que tel ou tel instinct a atteint en nous son point culminant, cet événement aura pour nous telle ou telle signification. Et selon l'espèce d'homme que nous sommes, ce sera un événement tout différent. Un tel l'accueillera comme une goutte de pluie. Tel autre le secouera loin de lui comme un insecte. L'un y cherchera un motif de querelle, l'autre examinera ses vêtements pour voir s'il prête à rire. Tel autre encore songera, comme conséquence, au ridicule en soi. Enfin, il y en aura peut-être un qui se réjouira d'avoir involontairement contribué à ajouter un rayon de soleil à la joie du monde. Et dans chacun de ces cas, un instinct trouvera à se satisfaire, que ce soit celui du dépit, de la combativité, de la méditation ou de la bienveillance. Cet instinct, quel qu'il soit, s'est emparé de l'incident comme d'un butin. Pourquoi justement celui-là? Puisqu'il était à l'affût, avide et affamé. Dernièrement, à 11h du matin, un homme s'est affaissé droit devant moi comme frappé de la foudre. Toutes les femmes du voisinage se mirent à pousser des cris. Moi-même, je le remis sur pied et j'attendis auprès de lui que la parole lui revînt. Pendant ce temps, aucun muscle de mon visage ne bougea et je ne fus pris d'aucun sentiment, ni de crainte, ni de pitié. Je fis simplement ce qu'il y avait à faire de plus pressant et de plus raisonnable, puis je m'en allai froidement. En admettant que l'on m'ait annoncé la veille que le lendemain à 11h, quelqu'un tomberait ainsi devant mes pieds, j'aurais souffert les tortures les plus variées, je n'aurais pas dormi de toute la nuit, et au moment décisif, je serais peut-être devenu semblable à cet homme au lieu de le secourir. Car dans l'intervalle, tous les instincts imaginables auraient eu le temps de se figurer et de commenter le fait divers. Quels sont donc les événements de notre vie? Bien plus ce que nous y mettons que ce qui s'y trouve. Ou bien, faudrait-il même dire, ils sont vides par eux-mêmes? Vivre, c'est inventer?